Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine des 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Encore une semaine.
Oui.
Mais c'est incroyable.
Donc, c'est le cycle de la vie,
oui.
Comme le dit si bien le roi Lion.
C'est le cycle chanté par Sir Elton.
Bien sûr.
The circle of life. Bonsoir, mon cher Rudy.
Bonsoir, mon cher Hugues.
Ah, et qui nous assiste aujourd'hui ? Mais c'est Guillaume Kerremens.
Oui, dans les reflets de ce double vitrage blindé. J'aperçois Guillaume, c'est bien lui.
Alors nous sommes rassurés.
Oh, vivement 20h, au moment où je vous dis « et pourquoi ?», vous mettez votre casque, vous n'entendez pas ma question. Il est beaucoup trop tard pour la réponse, puisqu'on est sur antenne.
Oui.
Donc j'aurai ma réponse à la question que vous n'avez pas entendue après 20h.
Je ne comprends rien, mais c'est pas grave. Bon, et musicalement, je vais comprendre quelque chose.
Écoutez, j'ai envie.
Ça va être difficile.
Non, ça va être limpide.
Ah.
Ça va être absolument limpide, et j'ai envie de la faire courte parce que je vous vends l'article.
On a le temps, je vous en prie.
Non,
je vous vends, à l'aise. Hein.
Je vous vends l'article sous toutes les coutures depuis des semaines, des mois.
Ouais.
Il y a un nouveau Chapel Rohan qui est sorti vendredi pour mon plus grand plaisir. Pas que personnel.
Non.
En moins de 24 heures, plus d'un million d'écoutes. C'est quand même une jeune chanteuse américaine, c'est vrai, qui est exposée, qui fait des premières parties de tournées importantes, mais ça reste quand même une artiste débutante qui, par exemple, pour sa tournée européenne, passera par des villes, dans des clubs en Europe, Paris, Amsterdam, pas par Bruxelles, où son album n'est toujours pas sorti. Mais donc, elle est vraiment sur une rampe de lancement et c'est vraiment mon artiste préféré du moment. Je me suis donc réjoui à l'écoute de son nouveau single, Good Luck Baby, qui va sans doute annoncer un album prochain. Forcément, là aussi, c'est le cycle de la vie. Après un premier album, il y a une tournée. Après la tournée, il y a...
Un album prochain.
Et un prochain.
Il faut quoi ? Il faut le commander en import avec 47 000 taxes quand il ne sort pas en Belgique.
Ah oui, ça c'est compliqué. Oui, vous pouvez tenter le coup. Il y a toujours des boutiques en ligne. Le problème, c'est que si c'est de l'import-import, et maintenant l'Angleterre est inclus
dans les imports exotiques.
Ce n'est plus une transaction européenne, ça devient de l'import. Là, vous explosez le budget en frais de transport et en taxes de douane. Donc là, par exemple, cette jeune fille formidable, elle sort sa nouvelle chanson sous le format d'un 45 tours très mignon en vinyle rouge. Mais vous payez trois fois le prix de l'objet uniquement en frais de douane et en frais de port. Donc
c'est plus de l'amour, c'est de la rage.
Donc c'est voilà.
Bon.
Mais enfin, il reste quand même l'essentiel, à savoir la chanson, et c'est le nouveau Chapel Rohan.
Ah, elle a changé.
Je savais qu'on allait me faire des problèmes, je savais. Voilà. Il suffit que je m'emballe pour un truc, et alors c'est vous qui avez mis
un poltergeist dans
la machine.
Probablement, de toute façon, c'est toujours de ma faute.
Vous avez
donc
reconnu.
Non.
Ah, ben oui.
Vous en parlerez tout à l'heure, on va l'entendre tout à l'heure.
Non.
Ah non.
Oui, vous souvenez pas de cette jeune chanteuse qui chantait « Un chat dans une chèvre ».
Non.
C'est une version techno qui vient de sortir.
D'accord.
Je voulais vous piéger avec ça. Un jour, je l'avais sous le coude, mais voilà, il est sorti de la boîte un peu comme le diablotin.
Bon, est-ce que
Jack in the Box,
est-ce que Guillaume Kerremens a retrouvé Chapel Rohan ?
Est-ce qu'on peut écouter ce Chapel Rohan ?
Ouais.
On me fait oui. Ah, le voilà. Ah, me rassurer. Good Luck Babe.
Et donc disponible pour les connoisseurs en 45 tours vinyle rouge, mais il faut être
hors
en voyage.
Ouais. Vous savez quoi ? on le repasse mercredi pour ouvrir. Je vais refaire mon lancement.
Ah, c'est comme vous
oui,
le sentez.
Oui, je le sens comme ça.
Ah, bah, très bien, très bien. Bienvenue chez vous, finalement.
Oui. Hein, on n'a que le bien qu'on se donne.
Bah, exactement. Alors, vous savez qu'il y a des traditions.
Il y a pas une critique de film que vous voulez refaire après coup en disant,
ça,
finalement.
Oh, ça, le nombre de, oui, de critiques de films que j'aimerais faire. Il y a des films que j'aimerais refaire également.
Oui, 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 oui.
Ou en tout cas, j'aimerais dire au type, tu ne le referais pas. Vous voyez le genre. Alors, vous savez que dans cette émission, il y a des traditions. Il y a parfois une tradition de pénitence aussi. De dire oui, et de mettre
oui,
un genou à terre.
Parfois deux. Hein.
Oui, parfois les deux genoux.
Parfois les
oui,
deux
oui,
genoux.
Donc là, un genou suffira. Je vous ai dit que bon, je vous parle régulièrement des prestations dans des films de fiction de Benjamin Biolay. Le garçon, franchement, il semble promener une sorte d'ennui profond et se balader dans les films, mais sans faire beaucoup d'efforts. Et ici,
il est comme au théâtre, il a deux masques. Un qui sourit, pas trop, et un qui fait
ouais,
la tronche.
Oui, qui fait la tronche. Et ici, bah, il faut dire qu'on lui a peut-être taillé un rôle sur mesure, mais je l'ai trouvé nettement plus convaincant.
Ou peut-être qu'il vous a écouté.
Peut-être, sûrement.
Ouais, sûrement.
Je l'ai trouvé nettement plus convaincant dans un film qui s'appelle « Quelques jours, pas plus ». Et il incarne Arthur Berthier. Qui est Arthur Berthier? Eh bien, c'est un journaliste rock dans un grand quotidien parisien. On imagine une sorte de Libé, un quotidien d'opinion, marqué à gauche, assez branché. Et visiblement, le type vit un peu dans un paramonde. Et ça démarre assez mal parce qu'il a rentré une note de frais absolument inqualifiable, parce qu'il a fait la brinque dans une chambre d'hôtel, enfin bon, et
bec bédé,
et le patron lui voilà, et le patron lui, du journal, lui, qui est joué par Hippolyte Girardot, lui tire les oreilles en disant, non seulement Arthur, je ne veux pas payer ta note de frais, mais en plus tu vas un peu aller retourner dans la vraie vie, et je te remets dans la cellule société, et tes critiques d'album, tu attendras. Donc voilà le type qui a quand même été journaliste généraliste à la base, avant d'être critique, comme souvent on est journaliste et puis on s'intéresse à un domaine d'action précis, mais il est journaliste. Et donc il retourne à l'info générale, et là, on lui dit d'aller couvrir une saisie par la police d'un squat de migrants sous un pont, et évidemment il débarque en dernière minute parce qu'il a l'info très tard, et il y a, en gros, il y a de la castagne. Pourquoi? Mais parce que une association qui s'occupe de ces migrants, qui fait de la maraude, qui leur donne des repas, qui essaye de leur trouver des domiciles, est absolument en vienne aux mains avec les forces de l'ordre, parce que cette expropriation, en quelque sorte expéditive, ne leur convient guère. Et donc, il est pris entre deux feux, le Arthur, et il reçoit un solide coup sur le crâne, commotion cérébrale, pansement, osto, et donc il ressort presque comme un héros involontaire, parce que, journaliste engagé et tout. Mais surtout, il, fort de cette expérience, comme il doit de toute façon continuer de travailler dans ce secteur-là, il a envie d'en savoir plus sur la SBL, sur l'ONG qui s'occupe de ces migrants. Il est surtout très, très, très... il a visiblement flashé pour une des organisatrices.
On y vient.
Mathilde, qui est incarnée par Camille Cotin, qui, une fois de plus, est vraiment tout à fait convaincante et très, très bien. Le problème est que cette Mathilde, elle est mariée à son travail, et donc n'a absolument pas le temps d'aller sortir boire un verre. Et donc il ne cache pas du tout qu'il la drague, mais pour apparaître investi dans cette cause qui occupe tout le temps de Mathilde, eh bien, il est apostrophé. On dit, mais est-ce que tu ne peux quand même pas, en attendant qu'on trouve légalement une solution, un centre d'accueil, eh bien, est-ce que tu ne peux pas accueillir Douach chez toi, un migrant afghan? Oui, ok, enfin, au départ, c'est trop petit chez moi, un petit appart, mais enfin, oui, bon. Et évidemment, il veut quand même, maintenant qu'il apparaît comme un peu le héros de l'histoire.
C'est un peu comme dans le Toledano et Nakash.
Oui, 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 voilà, c'est ça. Mais sauf qu'ici, c'est traité sur d'un angle tout à fait réaliste. Et on voit vraiment en toile de fond le travail des associations et le côté, la croix et la bannière, le chemin de croix administratif pour faire une demande d'asile. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Daoud, le jeune Afghan, n'a pas du tout l'intention de demander son asile en France. Parce que, comme beaucoup d'Afghans, il a une partie de la famille qui est déjà en Angleterre. Et lui, son objectif, c'est de rejoindre son frère et son père en Angleterre. Et voilà, à la fois le journaliste Arthur et une des responsables de l'association Mathilde qui essayent de lui faire comprendre que l'Angleterre s'est foutue, c'est devenu, il y a des passeurs sans scrupules, et donc essayer de le convaincre que pour son bien, il devrait rester en France. Donc, chaque personnage est très très bien défini. Il y a d'abord ce personnage de journaliste qui au départ sort complètement de sa zone de confort, mais bon, le type, il est pris au jeu et il est surtout extrêmement séduit par l'énergie et l'enthousiasme de cette Mathilde. Il y a Mathilde qui clairement est tellement investie qu'il y a des moments aussi où elle perd patience parce qu'elle est fatiguée. Il y a une scène formidable où elle est le soir avec des migrants et les migrants ne veulent pas être séparés. Elle est avec des migrants africains, ils sont à 5, c'est un dialogue de sourds. Elle essaie d'expliquer, on ne va pas pouvoir vous trouver un logement pour 5 au même endroit, on va devoir vous séparer. Et voilà, donc il y a la lassitude, la fatigue de ces bénévoles qui se dévouent, mais qui parfois se heurtent à des incompréhensions des migrants qui eux-mêmes sont au bout du rouleau. Et toute cette galerie de portraits, je trouve, est extrêmement bien dessinée parce que il y a aucun manichéisme, il y a aucune caricature. Et justement, ce vous disiez, c'est Toledano Nakash. On pense à la fois aussi à un autre film qu'ils avaient fait, qui était Samba, avec Omar Sy, qui n'était pas leur film le plus réussi, mais il y avait déjà cette tentative-là. Et on pense plus à Welcome de Philippe Lioret, ce formidable film où Vincent Lindon jouait un maître nageur et se retrouvait avec un adolescent qui, lui, voulait traverser la Manche à la nage. Et on est plus dans cette tonalité réaliste et cette tonalité aigre-douce qui était la marque de fabrique de Welcome. Mais malgré tout, il y a le fait de réussir à la fois montrer en toile de fond combien c'est difficile, combien la situation est devenue inextricable, combien il y a plein de logiques qui s'affrontent, et en même temps de faire réussir une galerie de portraits. Et je dis pas une comédie romantique, mais en tout cas ce type qui essaye en permanence parce que il est célibataire dans son petit appart avec ses vieux 33 tours. Il a une fille adolescente aussi qui le houspille régulièrement en disant « Papa, investis-toi plus ». Donc, tous ces personnages sont bien dessinés et en fait, la réalisatrice est une directrice de casting. Alors, est-ce que... elle s'appelle Julie Navarro. Est-ce que justement, elle s'est dit « Bon, est-ce qu'elle a écrit pour les personnages ?» Je n'en sais rien, mais en tout cas, elle a j'imagine bien qu'à un stade du projet, à partir du moment où elle a obtenu l'approbation des deux acteurs principaux, on sent vraiment qu'elle a réussi à bien mouler son histoire pour que ça fonctionne avec ce duo. Donc c'est vraiment, je trouve, une très 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 bonne surprise, parce que voilà, Julie Navarro, premier long métrage, sort de nulle part. Je vous dis, Biolay, il tourne un peu tout et n'importe quoi. Et là, franchement, le charme opère, ça dit vraiment beaucoup de choses, et avec une très très bonne maîtrise de la narration, le récit ne part pas, ne divague pas. Et il y a des choses, il y a des scènes objectivement assez drôles, mais il y a des scènes aussi objectivement assez prenantes et assez émouvantes. Mais il y a de la pudeur dans cette émotion. On ne sort pas les violons, on est dans quelque chose de pudique et une fois de plus qui reste vraiment dans une écriture réaliste et juste. Donc ça s'appelle Quelques jours, pas plus. Comme il en est terriblement question dans le film, on va décerner des permis de séjour, c'est toujours le plus simple.
Sans dossier ?
Sans dossier, voilà. Voilà.
Mais vous savez
d'autorité.
Vous savez qu'on est en période électorale, hein, je ne sais pas si vous avez le droit de distribuer
d'autorité, voilà, donc j'en donne volontiers deux pour ce film français de, franchement de très très bonne tenue, avec, une fois encore, un Biolay assez... Pas complètement loin de son personnage, mais évidemment, il y a quelques allusions aussi au monde musical. Voilà, il y a des choses assez justes, et le fait que ce soit lui qui le joue, ça apporte une saveur supplémentaire. Évidemment.
Mais pas de caméo.
Pas de caméo, non.
Pas d'apparition.
Non. Oh, peut-être que vous en repérerez, mais je n'en ai pas repéré.
Non, on ne le voit pas en train d'interviewer quelqu'un.
Non, pas du tout. Voilà, donc quelques jours, pas plus, et ça sort ce mercredi.
On le voit pas, par exemple, en train d'interviewer Conan Gray.
Non, non.
Aucune chance. Ni Chappelle Roan.
Non, parce qu'en plus, c'est un journaliste très vintage. Hein. C'est plutôt Philippe Manœuvre, c'est plutôt... il est en train de réécouter... Il réécoute les Kings, quoi.
Mick Jagger, les Stones, c'est un nouvel album des Stones.
Et voilà, il réécoute les Kings, et c'est plutôt ça.
Ah ouais.
Ça calme. Ouais, donc, c'est certainement pas Chappelle Roan.
Non.
Il n'a pas le vinyle rouge 45 tours, limited edition.
Oui. Very limited.
Ça, il n'a pas du tout.
Avec un petit cocheron sur la poche.
Ah voilà, bien.
Il me le faut. Hein.
Oui.
Bon, donc, week-end festif me concernant,
oui.
Les oreilles étaient en fête,
oui.
Chanson de Chappelle Roan et l'album de Conan Gray.
Ah.
Alors là, je sais pas par où commencer, j'ai presque envie d'en écouter un tous les jours.
Donc, ah oui.
Mais déjà que on va écouter deux fois cette semaine Chappelle Roan, donc ça va faire un peu beaucoup. Je sens qu'on va avoir encore des trucs cloués sur nos portes, enfin surtout la mienne.
Oui.
Déjà qu'il y a plein de Jay-Z cloués... sur la porte du garage.
Oui, mais j'en reçois aussi.
Oui.
Hein. Quand ils ne connaissent pas votre adresse, ils disent « Là, tiens, c'est pour ta pomme et tu donneras le message à Rudy. »
Si vous voulez que je vienne nettoyer.
Voilà.
Ouais. Donc, l'album de Conan Gray qui s'appelle Found Heaven.
Je ne m'en remets pas de ce nom. Hein. Je ne m'en remets pas de ce nom. J'ai tout le temps l'impression que c'est un type qui a lu Conan Doyle et Dorian Gray en même temps. C'est un pseudonyme, Conan Gray.
Non, il s'appelle Conan Gray, voilà.
Wow.
L'album est sorti, il sera en concert le 4 novembre à Forêt Nationale, et ce qui est formidable avec cet album, non seulement c'est la qualité des chansons et de son interprétation, mais la production est complètement dingue. Ça renoue, comment vous expliquer ? Il y a une sorte de dégoût, de dédain aux États-Unis pour quand même une musique qui a fait la fortune des labels et la fortune des radios à une certaine époque, c'est ce rock FM américain.
Oui.
Vous voyez, avec des groupes comme, je sais pas, Journey, Aereo Speedwagon. Oui.
Classic 21.
Oui, c'est Classic 21. Et par petites touches dans ses chansons,
il
on retrouve comme ça des espèces de tics ou de signatures ou de, voilà, d'évocations de cette musique, mais évidemment mélangée au milieu d'une approche qui est beaucoup plus moderne
pop,
et actuelle, beaucoup plus pop, et qui fait appel aussi à... C'est aussi des groupes qui, à une époque, enregistraient dans des studios gigantesques avec tous les instruments, avec des amplis, avoir 40 guitares différentes par chanson, avec des amplis différents, mettre la batterie, une prise de son particulière pour la batterie, ce qui était formidable sans doute, mais ce qui appartenait à une époque. Et on retrouve un peu tout ça, mais par petites touches, à côté de méthodes d'enregistrement qui sont beaucoup plus contemporaines, qui font appel à des ordinateurs et des choses qu'on peut faire simplement à la maison. Il y a même à un moment donné une espèce de signature où on reconnaît clairement le son de guitare de Brian May, qui a ce son si caractéristique. Voilà. C'est tout à fait étonnant ce mélange. Je sais pas
et
si...
Vous avez raison, il s'appelle vraiment Conan Lee Gray.
Oui, il s'appelle Conan.
Ce n'est pas un pseudonyme.
Chappelle Roan, c'est un pseudonyme.
Oui, oui, ça j'ai vu.
Et donc, je ne sais pas si cette espèce d'intérêt pour cette musique, je vous dis, qui a été vraiment mise au placard et dénigrée par plusieurs générations de rock FM américain, une musique un peu pleine de cholestérol, comme ça. Je ne sais pas si c'est une tendance qui va se développer et si on assiste à un retour de cette musique, quelque part, qui fait partie de l'histoire, de la tradition musicale américaine, au même titre que la country. Ça, c'est l'histoire qui va le dire. En tout cas, si quelqu'un a ouvert les portes, c'est Conan Gray. Found Heaven, Conan Lee Gray. C'est vous qui me l'apprenez.
Conan Lee Gray.
C'est comme Martin Lee Gore.
Ah oui.
Oui, le L c'est pour Lee.
D'accord, très bien.
Ça fait avancer la culture générale.
Mais souvent, le deuxième prénom est mis en avant avec une initiale dans la culture anglo-saxonne.
Absolument.
C'était la grande trouvaille de Edgar P. Jacobs, évidemment, l'auteur de Blake et Mortimer.
Qui n'est pas anglais, en fait.
Pas du tout. Il parlait anglais comme une vache espagnole, mais il a fait croire qu'il était parfaitement. Il posait avec des vestons tweed, etc. On a l'impression que c'était le frère de Sherlock.
Mais c'est une vraie personne.
C'est une vraie personne.
Ouais. Qui n'a fait que ça.
Qui n'a fait que ça.
Ah oui, je crois que c'était le pseudo d'un cas connu qui faisait autre chose à côté.
Pas du tout, non.
Genre un Durum.
Non, il n'a fait que ça. Il a été chanteur d'opéra dans une première partie de sa vie et dessinateur de bande dessinée dans une seconde.
Pas livreur chez Domino Pizza, par exemple.
Edgar, non. Ça n'existait même pas.
Oui, c'est vrai.
Ça n'existait même pas. Alors, on reste dans le cinéma français, mon cher Rudy, avec un film qui est signé Édouard Bergeon. Alors, qui est Édouard Bergeon? Eh bien, c'est un type qui avait remporté un énorme succès public, ça avait très suscité un engouement en France, avec un film qui s'appelait Au nom de la terre et qui s'inspirait du destin de la détresse des agriculteurs en France. Son père s'était suicidé, criblé de dettes, et il avait fait un film où Guillaume Canet avait fait un rôle de composition énorme, il était chauve.
Je me souviens.
Comme Nicolas Cage dans le même scénario, Guillaume Canet avait voulu avoir la dégaine du père de Édouard Bergeon.
Ou Marc-André Grondin dans...
Voilà, dans Le Successeur.
Dans Le Successeur.
Et donc ce film avait été vraiment un phénomène de société en France, des débats à n'en plus finir. Et quand on voit justement ce qu'il racontait, mais quand on voit les manifestations des agriculteurs, les manifestations récentes, on se rend bien compte que Édouard Bergeon avait vraiment...
Mis le doigt dessus.
Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un premier long-métrage comme ça, qui est largement autobiographique? Comment est-ce qu'on passe à autre chose? Eh bien, Édouard Bergeon est passé à autre chose sans passer complètement à autre chose. C'est-à-dire qu'il reste dans un cinéma à message, un cinéma dénonciateur, et il signe un nouveau long-métrage qui s'appelle « La promesse verte ». Et on suit Martin, qui est un jeune universitaire qui a...
Non, Hugues, je suis désolé, nous sommes en période électorale, déjà que vous distribuez des permis de séjour, et là vous allez nous vendre une promesse verte.
Oui. Non, écoutez. Allez-y. Donc je vais expliquer en quoi ça consiste, cette promesse verte. Alors justement, c'est la toile de fond politique du film. Martin, jeune universitaire, a rejoint une ONG sur l'île de Bornéo, donc en Indonésie. Et en fait, officiellement, c'est pour rejoindre une sorte de centre hospitalier de campagne. Mais il veut surtout, pour sa thèse qu'il est en train de peaufiner, enquêter discrètement sur les ravages de la déforestation provoquée par l'industrie florissante de l'huile de palme. Déforeste à qui mieux. À la fin du film, on apprend que toutes les 6 secondes, l'équivalent d'un terrain de foot de forêt est détruit pour planter de quoi cultiver de l'huile de palme, ce qui est extrêmement lucratif. Évidemment, le jeune gars en question dérange, ses recherches dérangent, et puis il assiste à une sorte de milice qui vient saccager des opposants à la déforestation, et il filme ce massacre. Et à partir de ce moment-là, il devient l'homme à abattre, et de manière très insidieuse, là on tombe un peu dans une sorte de Midnight Express, c'est-à-dire qu'on va lui caler des paquets d'héroïne dans ses bagages quand il est à l'aéroport de Jakarta. Il va être pris la main dans le sac et il a beau dire « ce n'est pas moi », évidemment, il file directement en prison. Or, l'Indonésie, de manière très politique, c'est le tolérance zéro par rapport au trafic de drogue et il risque une condamnation à mort. Évidemment, il clame son innocence. Le problème est que ce qu'il a filmé, le massacre du village, est totalement introuvable. Et en France, sa mère, qui est seule, elle n'est pas divorcée, elle est veuve, mais donc sa mère est la seule à pouvoir l'aider. Carole, elle est jouée par Alexandra Lamy, va remuer ciel et terre pour évidemment le faire sortir de prison. Et ce faisant, Elle va payer très... C'est pas une histoire vraie, hein, je le dis tout de suite. Elle va payer cher un avocat sur place pour défendre les intérêts de son fils, mais surtout va essayer de savoir qui tire les ficelles. Et le problème est que son fils veut absolument, ne veut pas faire profil bas. Il ne veut pas dire je n'ai jamais été trafiquant de drogue, j'étais juste piégé. Il veut dire je suis victime d'un complot parce que j'ai filmé des trucs compromettants. Donc le fils adopte la plus mauvaise défense qu'il peut imaginer adopter aux grandes dames de sa mère qui se demande comment elle va le sortir de ce mauvais pas. Alors, qu'est-ce qui est agité en toile de fond dans cette espèce de thriller juridique à suspense? C'est évidemment l'idée d'expliquer tous les enjeux à la fois diplomatique et politique autour de l'industrie de l'huile de palme entre les différents États européens et différents États qui le produisent parce que promesse, on parlait de promesse verte, justement, promesse d'un carburant beaucoup moins polluant que le kérosène actuel pour les avions, etc. etc. Et donc, à partir de ce destin personnel, de cette enquête, de ce destin judiciaire, se profile un problème, une problématique beaucoup plus large, une problématique environnementale. Tout ça est très intéressant. Honnêtement, c'est une bonne problématique. Tout ça est très intéressant, mais autant dans le premier film dont je vous parlais, où le sort des migrants, c'est très intéressant, mais c'est surtout en avant-plan, on a des personnages, donc je parlais de Biolay et Camille Cotin, ici, on a en permanence l'impression que les personnages servent à faire une sorte de démonstration sur la problématique mondiale, économique. Et donc, il y a un petit côté...
PowerPoint
didactique. Il y a un petit côté démonstratif. Alors, le côté Midnight Express du cauchemar du jeune garçon dans les prisons indonésiennes, Edouard Bergeon n'est pas Alan Parker, donc... C'est filmé gentiment, c'est filmé en Thaïlande, avec des méchants gardiens. Mais enfin, honnêtement, ça ne fait pas très très peur. Enfin,
inspiré de l'affaire Michael Blanc, vous vous souvenez de ce Français qui avait de la drogue dans des bouteilles de plongée.
Tout à fait, voilà. Donc, et comme dans Midnight Express, ici, il croise dans Midnight Express... Le brave Brad Davis croisait William Hurt, qui était depuis plus longtemps dans les geôles. Ici, il croise un surfeur australien qui, lui, vraiment, a essayé de faire passer de la drogue. Donc, il y a une sorte de parallélisme qui joue malheureusement en la défaveur de ce film-ci. Et l'autre souci, mais ça, vous allez me dire que c'est purement subjectif, c'est Alexandra Lamy qui essaye de faire son Tchao Pantin, qui essaye de dire « Je ne suis pas uniquement cette grande fille sympa, pas dynamique, rieuse, que vous connaissez depuis 20 ans grâce à un gars et une fille. Je peux aussi jouer des rôles, porter le malheur du monde sur mes épaules et être concerné, investi et combative. » Oui, 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 elle le peut, mais le problème est que, est-ce qu'on y croit forcément? Moi, personnellement, je trouve qu'elle n'a pas le... Elle n'a pas encore la gamme de jeux suffisante pour faire quelque chose d'assez convaincant. Je pense que c'est... Et puis, il y a le fait que c'est écrit aussi de manière, une fois encore, assez pédagogico-linéaire. Et les personnages sont assez unidimensionnels. On a d'un côté Mère Courage et de l'autre côté Fils Militant. On aurait aimé un peu plus de zones d'ombre, un peu plus d'ambiguïté dans l'écriture pour que ce soit plus réaliste. Donc voilà, j'avais envie de mettre les deux films en parallèle parce que autant dans le premier film qui traite aussi quelque part d'un problème actuel, donc dans quelques jours pas plus, il y a une subtilité d'écriture qui fait vraiment qu'on est dans du cinéma. Ici, voilà, on est dans quelque chose truffé de bonnes intentions. Néanmoins, c'est pas nul, hein, c'est simplement un peu trop sage, un peu trop appliqué. J'ai oublié de citer que le Martin en question était joué par Félix Moati, un jeune acteur qu'on voit tout le temps, mais qui n'a pas encore...
Le fils de Serge.
Ouais, on voit beaucoup, mais qui n'a pas encore breaké avec un rôle parfaitement qui lui aurait valu un grand succès populaire. Voilà, mais qui est bien, hein, c'est pas ça, mais... Voilà, donc La Promesse Verte, ça sort également ce mercredi, je lui donnerai un permis de séjour pour toutes les bonnes intentions développées, parce que une fois encore, c'est pas raté, c'est juste un peu laborieux. Voilà, me semble-t-il.
Mais s'il vous semble.
Il me semble.
Ben voilà.
Il me semble. Oui,
c'est dit.
C'est quelque part, c'est mon métier et la limite de ma subjectivité.
Oui,
mon cher Rudy. C'est vrai. Voilà. Mais c'est marrant, hein, on aurait mis Camille Cotin dans ce film-ci.
Ça aurait fait le boulot.
Ça aurait déjà changé de dimension.
Non, mais aussi des gens, voilà, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas, ils n'ont pas l'envergure. Et parfois, simplement, on n'a juste pas envie de les voir dans ce rôle-là.
Oui.
On n'a pas envie de faire l'effort d'imagination de les voir dans ce rôle-là.
Non, et c'est aussi et l'écriture, hein, si les dialogues sont... Et voilà, là, on va faire une petite scène émotion où tu es seul, recroquevillé dans ton canapé en se disant que va devenir mon fiston. Ah oui, mais c'est pas très très riche à jouer, quoi. Tout dépend toujours le matériau qu'on donne, quoi. Il n'y a pas de miracle. Voilà. C'est universel.
Il n'y a pas de miracle.
Il n'y a pas de miracle.
Est-ce que vous connaissez un groupe qui s'appelle The Drums? Vous avez entendu.
Oui,
ouais,
j'ai entendu.
Vous avez entendu des trucs des Drums. Enfin, quand je dis groupe, c'est intitulé
ouais.
The Drums existe depuis... une quinzaine d'années, mais en cours de route, ils étaient quatre, et aujourd'hui, c'est un gars tout seul.
Ah oui.
Johnny Pierce, voilà, il est tout seul, et il mène son groupe de drums, et il a sorti un album, il a sorti un album fin de l'année passée, je dirais dans une sorte d'indifférence polie.
Voilà.
Oui. C'est sorti, ça fait un peu partie du paysage. Et cet album ressort ces jours-ci avec des suppléments de chansons qui valent vraiment le détour. On va en écouter tout à l'heure, qui s'appelle The Impossible. Mais surtout, je voulais vous raconter un peu le processus visuel pour la pochette de l'album des Drums qui est sorti fin décembre. Et du coup, il remet le couvert avec la version... la nouvelle mouture de l'album,
ouais,
qui est la Deluxe Edition. Donc l'album s'appelle Johnny, c'est le prénom sans H, hein, comme Johnny Greenwood.
D'accord.
C'est le prénom de ce Johnny Pierce. Et en fait, il s'est fait photographier dans la maison de son enfance, à peu près dans toutes les pièces, là où il a vécu avec ses parents, avec lesquels, je pense, il a eu quelques problèmes de communication, lorsqu'il leur a annoncé qu'il était homosexuel. Et je pense que ça n'a pas été très bien accueilli par les parents. Donc, du coup, en forme de rébellion, de gros doigt d'honneur, il pose dans toutes les pièces de la maison de son enfance, Pépette tout nu.
Ah oui,
oui. Oui.
Ah oui.
Donc, sorte d'hommage à la scène finale de Saltburn.
Oui.
Voilà, il est pépé tout nu.
Kiss My Ass.
Oui, voilà. Il a...
et
pareil sur la pochette de la nouvelle édition de l'album Johnny. Johnny est pépé tout nu. Voilà.
D'accord.
Donc, c'est la réédition de l'album des Drums avec cette formidable chanson qui a pour nom The Impossible. The Impossible, The Drums, avec une chanson formidable qui manquait probablement dans la version originale de l'album et qu'on trouve sur la version augmentée.
Oui, et avec une belle pochette.
Une belle pochette.
Décidément, il y a comme ça une conjonction, une conjoncture assez intéressante, puisqu'on a beaucoup de films français cette semaine-ci et beaucoup de films français qui... Bon, j'ai dit souvent des premiers longs-métrages et qui s'intéressent je dis pas à un problème de société, mais des questions de société et qui le traitent sous l'angle parfois justement de la comédie d'où sa mère. C'est en tout cas le cas du film Éric Biolay. Et il y a un film qui s'intitule Le Dernier des Juifs, qui est signé Noé Debré, avec un jeune qui s'appelle Michael Zindel et dans le rôle de sa maman, Agnès Jaoui. Alors c'est... Il y a un mois, on vient de voir Agnès Jaoui dans La vie de ma mère, où elle jouait une mère bipolaire, et son fils fleuriste était incarné par un formidable William Legbill. Eh bien, ici encore, on avait évoqué justement un petit peu la trajectoire d'Agnès Jaoui à ce moment-là. On a le sentiment que, comme elle est un peu en pause d'écriture, et elle le reconnaît elle-même, que depuis la disparition de son complice d'écriture... Jean-Pierre Bacri, c'est beaucoup plus difficile. Eh bien, elle met son nom, quelque part, et son talent d'actrice au service de jeunes cinéastes. Et si ça peut aider le film à se monter, c'est peut-être pas plus mal. Et donc, dans ce film-ci, elle joue aussi une maman, mais une maman qui n'est pas atteinte d'un syndrome ou d'une maladie, mais simplement elle est de plus en plus nostalgique et de plus en plus isolée parce qu'elle vit dans un appartement avec son grand-fils de 27 ans, Belisha, qui est une sorte de menteur congénital. Mais c'est des mensonges gentils, c'est-à-dire qu'il essaye de lui épargner les chocs de la réalité parce qu'elle vit de plus en plus cloîtrée chez elle et elle vit dans ses souvenirs. Et lui, qu'est-ce qu'il se rend compte qu'ils sont dans un appartement dans une cité et que... il n'y a plus qu'eux comme juifs dans le quartier et que sinon il n'y a plus majoritairement que des Noirs et des Arabes. Alors ça s'est toujours bien passé, mais là quand même il manque un petit peu d'interlocuteurs. Ça démarre avec la fermeture de la dernière épicerie cachère. Ils ne vont pas commencer non plus à aller à l'épicerie d'en face. Et donc il y a en toile de fond de ce film, évidemment, une question communautaire et une question comment vivre ensemble quand on devient minoritaire. Alors, la sortie du film en France, le film est sorti début de l'année 2024, mais après tout le contexte, le déclenchement du conflit, ils se sont posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on sort une comédie sur comment vivre entre juifs et arabes aujourd'hui à Paris? Et puis finalement, ils ont décidé de la sortir en disant justement, le film développe un message de tolérance, allons-y, sortons-le. Alors le film sort aussi chez nous. Ça reste un film terriblement communautaire, dans le sens où il y a énormément d'allusions à la culture juive qui, à mon avis, ne sont pas très, très, très... facilement décodable pour le spectateur lambda. Donc il y a une dimension d'humour juif et il y a aussi cette espèce de clash involontaire avec la culture musulmane qui devient prédominante dans le quartier. Donc en toile de fond, il est évidemment question de religion et tout ça. Tout ça est traité avec assez bien de sensibilité, assez bien de justesse, mais finalement, je pense que Noé Debré, le réalisateur et scénariste, réussit pas complètement son pari, dans le sens où ce qu'il a à traiter est quand même assez sérieux, et il veut le traiter de façon légère, grâce à son personnage principal, de cette espèce d'adolescent perpétuel qui ne fait pas grand-chose de sa journée, joué par ce Michael Zindel. Mais c'est parfois un peu émouvant, mais c'est hélas pas très très drôle. Et peut-être que c'est aussi le contexte qui fait qu'on dit qu'on peut rire de tout, mais c'est vrai que c'est assez difficile de sortir un film comme celui-là aujourd'hui. On sait que les tensions sont exacerbées, les débats sont difficiles. Alors, le film veut évidemment promouvoir un dialogue, mais voilà, je pense que c'est un film qui, hélas, n'est pas suffisamment fort. C'est un film assez fragile, c'est pas un film suffisamment fort qui peut se permettre de sortir facilement dans un contexte qui, justement, est extrêmement nerveux et extrêmement difficile. Donc, sortie assez modeste pour ce film et qui prouve une fois de plus, mais j'ai envie de dire quand même qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'itinéraire actuel de Daniel Jaoui, en tout cas son courage intellectuel et sa générosité pour aller vers des, alors qu'elle pourrait aller vers des films certainement plus, entre guillemets, plus faciles et plus bankable, d'aller vers des films comme ceux-là qui essayent de dire des choses. Voilà, donc je donnerais volontiers un petit permis de séjour, mais pas beaucoup plus pour ce film qui, hélas, pour moi, ne tient pas toutes ses promesses. Voilà, donc ça s'intitule « Le dernier des Juifs », c'est de Noé Debré, avec un certain Michael Zindel et Agnès Jaoui.
Et ça sort mercredi.
D'autres sorties,
oui,
naturellement, demain.
Évidemment.
Et je peux déjà vous dire qu'on évoquera une comédie avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia. Voilà.
Vous êtes en train de dire au revoir, là?
Pas du tout.
Ah.
Je fais du teasing.
Ah, ok. Vous teasez.
Je tease.
Très bien.
Ouais.
Donc ça sort de mercredi. Hein.
Ouais, oui, les trois films dont j'ai parlé aujourd'hui sortent ce mercredi.
Eh bien, le nouvel album du groupe dont je vous parle sortira le 13 septembre. Dieu sait si on prend ses précautions en annonçant déjà avec une nouvelle chanson un album qui sortira à la rentrée prochaine. London Grammar, dont on n'avait plus entendu grand-chose depuis 4 ans. Ils reviennent avec The Greatest Love. À une époque, on disait que Hooverphonics c'était un peu les London Grammar anglais.
Oui.
Sauf qu'aujourd'hui...
Flamand, vous voulez dire? Overphonic, oui. Le London Grammar flamand. Oui, oui, oui.
Sauf qu'aujourd'hui, London Grammar...
C'est les overphoniques anglais.
Les overphoniques anglais. Oui. Voilà, rien de bien neuf sous le soleil.
Contrairement aux overphoniques, ils n'ont pas changé de chanteuse.
Non. Non, ni de chanson. Ouais. Celle-ci s'appelle House et l'album arrive en septembre. Mon cher Hugues, non sans vous avoir salué et non sans avoir salué Guillaume Kermans qui était avec nous ce soir, je propose qu'on se quitte avec Balogi.
Oh.
On a eu Augure le film,
oui.
Augure l'expo, Augure le coup de gueule.
Augure les pas de Magritte, oui.
Oui. Et maintenant on a Augure l'album,
ah,
enfin
ouais.
Le... quadruple album, ah. Puisque Balogi sort un album avec quatre disques. En fait, son idée, c'était quoi ? De prendre quatre personnages de son film et d'écrire une BO pour chacun d'eux avec un point de vue et une approche. Ça donne au total 2h13 de musique et 37 titres, dont celui qu'on va écouter qui a pour nom Anti-Muse. Et c'est Balogi, comme quoi Balogi ? Tu vois bien qu'on t'aime bien ?
Si vous me regardez, qui je regarde, moi ?
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.